Dans le cadre de son travail de recherche de fin d'année pour le grand galop parmi les géants de M. Ricoeur, Pitt avait rédigé une dissertation de 16 pages sur la trilogie Jimmy Gold, citant divers critiques et incluant quelques citations des rares interviews que Rothstein avait données avant d'aller s'isoler dans sa ferme du New Hampshire et de disparaître de la circulation. Il avait conclu son essai en parlant de la visite des camps d'extermination allemands que Rothstein avait faite en tant que reporter pour le New York Herald, et ce, 4 ans avant la sortie du premier roman de la trilogie Jimmy Gold. Je pense que ce fut l'événement le plus important de la vie de M. Rothstein, avait écrit Pitt. Certainement l'événement le plus important de sa vie d'écrivain. La quête de sens de Jimmy est toujours liée à ce que M. Rothstein a vu dans ses camps. Et c'est pourquoi, quand Jimmy essaie de vivre la vie d'un citoyen américain ordinaire, il se sent toujours creux. Selon moi, ceci est le mieux explicité dans le passage où il lance un cendrier dans la télé, dans « Le coureur ralenti ». Il le fait pendant un reportage spécial de CBS sur l'Holocauste. Quand M. Ricoeur leur rendit leur copie, un gros A+ ornait la couverture de son devoir, que Pitt avait illustré d'une photo scannée de Rothstein jeune homme, assis à une table du Sardis à New York, en compagnie d'Ernest Hemingway. En dessous du A+, M. Ricoeur avait écrit « Viens me voir à la fin du cours ». Quand les autres élèves furent partis, M. Ricoeur fixa Pitt si intensément que l'espace d'un instant, celui-ci craignit que son professeur préféré ne l'accuse de plagiat. Puis M. Ricoeur sourit. C'est le meilleur devoir que j'ai lu en 28 ans d'enseignement, parce que c'est celui qui a été écrit avec le plus de conviction et la plus profonde sincérité. Le visage de Pitt s'empourpra de plaisir.
Merci, vraiment, merci beaucoup.
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ta conclusion, cependant, dit M. Ricoeur en s'adossant à sa chaise et en croisant ses doigts derrière sa nuque. Ta peinture de Jimmy Gold en noble héros américain comme Huck Finn n'est pas confirmée par le troisième et dernier tome de la trilogie. D'accord, il lance un cendrier dans son écran de télé, mais ce n'est pas un acte d'héroïsme. Le logo de CBS est un œil, tu le sais, et le geste de Jimmy est un aveuglement rituel de son œil intérieur, celui qui perçoit la vérité. Ce n'est pas de moi. Je te cite presque mot pour mot l'essai de John Crow Ransom, « Le coureur abandonne ». Et Leslie Fiedler dit à peu près la même chose dans « Amour et mort » dans le roman américain.
Mais
je ne suis pas en train d'essayer de te démentir, Pitt. Je suis seulement en train de te dire qu'il faut que tu apprennes à suivre les indices d'un livre, peu importe où il te mène. Ce qui implique de n'omettre aucun élément crucial allant à l'encontre de ta thèse. Que fait Jimmy après avoir lancé le cendrier et que sa femme lui a balancé la fameuse réplique « Espèce de salaud, comment les enfants vont regarder Mickey maintenant ?» Il sort acheter une autre télé, mais pas n'importe quelle télé, mais la première télé couleur de sa rue. Et ensuite, il crée la grosse campagne de pub pour le produit ménager Dezy Doux, mais M. Ricoeur leva les sourcils. Attendant la suite du mai. Comment Pitt pouvait-il lui dire qu'un an après, tard le soir, Jimmy se glissait dans son agence de pub avec des allumettes et un bidon de pétrole et qu'il mettait le feu à l'immeuble connu sous le nom de Temple de la publicité? Que Rothstein annonçait ainsi les manifestations contre la guerre du Vietnam et le mouvement des droits civiques? Que Jimmy quittait New York en stop, sans un regard en arrière, abandonnant sa famille pour partir vers le territoire indien, tout comme Huck Finn et Jim. Il ne pouvait rien dire de tout ça, parce que c'était l'histoire racontée dans « Le coureur part vers l'ouest », un roman qui existait seulement à l'état de carnet. 17 en tout, à l'écriture serrée, resté enterré dans une vieille malle pendant plus de 30 ans.
« Allez, donnez-moi des mets qui tiennent », dit M. Ricoeur avec équanimité.
Il n'y a rien que j'aime tant qu'une bonne discussion littéraire avec quelqu'un capable d'aller jusqu'au bout de son argumentation. J'imagine que tu as déjà raté ton bus, mais je me ferai un plaisir de te raccompagner chez toi.
Il tapota la page de couverture du devoir de Pitt. Johnny R. et Ernie H., ces deux titans jumeaux de la littérature américaine, trinquant avec leurs deux verres de martini géant. Hormis ta conclusion, infondée à mes yeux, et que je mets sur le compte d'un désir touchant de voir la lumière à la fin d'un ultime roman extrêmement noir, tu as fait un travail extraordinaire. Tout simplement extraordinaire. Alors vas-y, donne-moi des mets qui tiennent. Mais rien, répondit Pitt. Peut-être que vous avez raison. Sauf que non, Monsieur Ricoeur n'avait pas raison. S'il subsistait le moindre doute, à la fin du coureur part vers l'ouest, sur la capacité de Jimmy Gold à retourner sa veste, ce doute était balayé dans le dernier et plus long roman de la série. Le coureur hisse le drapeau. C'était le meilleur livre que Pitt avait jamais lu. Le plus triste aussi. Tu n'évoques pas la mort de Rothstein dans ton devoir?
Non.
Puis-je savoir pourquoi? Parce que c'était hors sujet, j'imagine. Et le devoir aurait été trop long. Et puis, c'est tellement pas cool qu'il soit mort comme ça. Se faire tuer dans un stupide cambriolage. Il n'aurait pas dû garder d'argent liquide chez lui, dit M. Ricoeur d'un ton apaisant. Mais il l'a fait. Et beaucoup de gens étaient au courant. Mais ne le juge pas trop sévèrement. Beaucoup d'écrivains ont été stupides et imprévoyants avec leur argent. Charles Dickens s'est vu contraint de subvenir aux besoins d'une famille de fainéants, y compris son propre père. Samuel Clemens a frôlé la ruine suite à des transactions immobilières foireuses. Arthur Conan Doyle a lâché des milliers de dollars à de faux médiums et en a dépensé des milliers d'autres pour acheter de fausses photos de fées. Au moins, l'œuvre majeure de Rothstein était achevée. À moins que tu ne croies, comme certains... Pitt consulta sa montre.
Monsieur Ricoeur, j'ai encore le temps de prendre mon bus si je me dépêche.
Monsieur Ricoeur fit ce geste rigolo avec ses mains comme pour dire « Ouh là là !» Fais donc. Je voulais juste te remercier pour ce travail formidable et te donner un conseil amical. Quand tu aborderas ce genre de devoir l'année prochaine, et ensuite à l'université, ne laisse pas ton optimisme obscurcir ton œil critique. L'œil critique doit toujours être froid et acéré.
D'accord, dit Pitt,
et il se dépêcha de sortir. La dernière chose dont il avait envie de discuter avec M. Ricoeur, c'était de la possibilité que les cambrioleurs qui avaient ôté la vie à John Rothstein aient volé un tas de manuscrits inédits, en plus de l'argent, et qu'ils les aient détruits après avoir décidé qu'ils étaient sans valeur. Une ou deux fois, Pitt s'était imaginé remettre les carnets à la police, même si ça impliquerait très certainement que ses parents découvrent d'où l'argent mystère provenait. Car après tout, les carnets étaient une preuve de crime, autant qu'un trésor littéraire. Mais c'était un vieux crime, de l'histoire ancienne. Mieux valait ne pas remuer le passé. Pas vrai? Le bus était déjà parti, bien sûr, ce qui voulait dire 3 kilomètres à pied pour rentrer à la maison. Mais ça ne le dérangeait pas. Il rayonnait toujours de l'éloge de M. Ricoeur. Et il y avait beaucoup de choses auxquelles il devait réfléchir. Principalement, les manuscrits inédits de Rothstein. Il trouvait les nouvelles inégales. Certaines seulement étaient vraiment bonnes. Et, de l'humble avis de Pitt, les poèmes qu'il avait essayé d'écrire étaient plutôt... nuls. Mais ces deux derniers tomes du cycle Jimmy Gold, c'était... de l'or en barre. Compte tenu des indices semés à travers ces deux romans, Pitt supposait que le dernier, dans lequel Jimmy brandit un drapeau en feu lors d'un rassemblement pacifiste à Washington, avait été achevé autour de 1973, parce que Nixon était toujours président à la fin du roman. Que Rothstein n'ait jamais publié les deux derniers Jimmy Gold, plus un autre roman sur la guerre de sécession, sidérait Pitt. C'était de tels chefs-d'œuvre! Il descendait les Moleskine un par un du grenier et les lisait dans sa chambre, la porte fermée et l'oreille tendue, à l'affût de la moindre visite intempestive lorsque d'autres membres de sa famille étaient à la maison. Il gardait toujours un autre livre à portée de la main, et s'il entendait des bruits de pas, il glissait le carnet sous son matelas et attrapait le livre de rechange. La seule fois où il s'était fait surprendre, c'était par Tina, qui avait la fâcheuse manie de se promener en chaussettes.
« C'est quoi ?»
avait-elle demandé depuis la porte. « C'est pas tes oignons, » avait répondu Pete en glissant le carnet sous son oreiller. « Et si tu dis quoi que ce soit à papa et maman, je te préviens, t'auras des soucis. »
« C'est un magazine porno ?»«
Non. » Même si Rothstein était capable d'écrire des scènes plutôt osées, surtout pour un vieux mec, comme celle où Jimmy et ses deux filles hippies.
« Alors pourquoi tu veux pas que je le voie ?»«
Parce que c'est privé. » Le regard de Tina s'illumina.
« C'est le tien ? T'écris un livre ?»«
Peut-être. Et alors ?»«
C'est trop cool. Ça parle de quoi ?»«
De la vie sexuelle des insectes sur la Lune. » Elle gloussa.
« Je croyais que t'avais dit que c'était pas porno. Je pourrais le lire quand t'auras fini ?»«
On verra. Mais motus et bouche cousue, ok ?» Elle acquiesça, et ce qu'il y avait de sûr avec Tini, c'est qu'elle manquait rarement à sa parole. Mais ça, c'était il y a 2 ans. Et Pete était certain qu'elle avait déjà tout oublié. Billy Weber arriva en roue libre, sur un 10 vitesses rutilant.
« Hey, Sobers !»
Comme pratiquement tout le monde, Monsieur Rickers étant une exception, Billy prononçait son nom Sobers, comme le mot anglais pour sangloteur, au lieu de Saubers, qui signifie sobre. Mais quelle importance! Ça restait un nom plutôt pourri, peu importe comment tu le prononçais.
Tu fais quoi cet été?
Je travaille à la bibliothèque de Garner Street.
Encore?
J'ai réussi à décrocher un 20 heures par semaine.
Oh mec, t'es trop jeune pour faire esclave salarié!
Ça me dérange pas. Répondit Pete, ce qui était vrai. Bosser à la bibliothèque voulait dire accès libre à Internet, entre autres avantages, sans personne pour regarder par-dessus ton épaule.
Et toi? Je vais dans notre maison de vacances dans le Maine, à China Lake. Plein de jolies filles en bikini, mon pote. Et celles du Massachusetts savent comment s'y prendre.
Alors peut-être qu'elles pourront te montrer, pensa Pete, narquois. Mais quand Billy leva la main, il lui tapa dans la paume et le regarda partir avec une pointe de jalousie. Vélo 10 vitesses sous le cul. Pompe Nike super chère aux pieds. Maison de vacances dans le Maine. Apparemment, il y avait des gens qui s'étaient déjà remis des mauvais jours. Ou peut-être que les mauvais jours les avaient carrément épargnés. Pas comme les Saubers. Ils s'en étaient bien sortis, mais... Il faut plus d'argent, murmurait la maison dans la nouvelle de Lawrence. Il faut plus d'argent. Et mon coco, ça, c'était de la résonance. Est-ce que les carnets pouvaient être transformés en argent? Y avait-il un moyen? L'idée seulement de s'en défaire déplaisait à Pete. Mais en même temps, il reconnaissait que c'était pas bien de les garder cachés comme ça dans son grenier. L'œuvre de Rothstein, surtout les 2 derniers, Jimmy Gold, méritait d'être partagée avec le reste du monde. Ses bouquins redoreraient sa réputation. Pete en était certain. Mais sa réputation était encore plutôt bonne. Et c'était pas ça le plus important. Les gens aimeraient ses bouquins. C'était ça qui comptait. Les adoreraient, s'ils pensaient comme Pete. Sauf que des manuscrits holographes, c'était pas comme des billets de 20 et de 50 impossibles à identifier. Pete se ferait arrêter et il risquerait la prison. Il savait pas exactement de quel crime on pourrait l'accuser. Sûrement pas de recel d'objets volés, puisqu'il n'avait pas volé les carnets, mais qu'il les avait trouvés. Mais il était certain qu'essayer de vendre des trucs qui t'appartiennent pas doit correspondre à un crime ou à un autre. Faire don des carnets à l'Université de New York, l'alma mater de Rothstein, ressemblait à une solution possible. Sauf qu'il devrait le faire de manière anonyme. Sinon, tout éclaterait au grand jour, et ses parents découvriraient que leur fils les avait entretenus avec de l'argent volé à un homme assassiné. En plus, pour un don anonyme, on recevait que dalle de paiement. Même s'il n'avait rien écrit sur la mort de Rothstein dans son devoir de fin d'année, Pete avait tout lu sur le sujet, principalement dans la salle informatique de la bibliothèque. Il savait que Rothstein avait été tué d'une balle dans la tête, style exécution sommaire. Il savait que les flics avaient trouvé suffisamment de traces dans la cour de la maison pour penser que 2, 3 ou même 4 personnes étaient impliquées dans le meurtre. Probablement tous des hommes, à en juger par la taille de leurs empreintes de pas. Les enquêteurs pensaient aussi que deux d'entre eux avaient été exécutés peu de temps après sur une aire de repos dans l'État de New York. Margaret Brennan, la première femme de l'écrivain, avait été interviewée à Paris peu de temps après le meurtre. « Tout le monde parlait de lui dans cette petite ville de province où il habitait », avait-elle dit. « De quoi aurait-il pu parler ? Des vaches ? Du nouvel épandeur à purin d'un tel ou un tel ?» John était un sacré sujet pour ces provinciaux. Ils avaient cette idée fausse que les écrivains gagnent autant que les banquiers d'affaires et s'imaginaient qu'il avait des centaines de milliers de dollars planqués dans sa vieille ferme décrépite. Quelqu'un qui n'était pas du coin a dû entendre les commérages, c'est tout. La retenue yankee ? Mes fesses d'Irlandaise, oui. Les gens du coin sont tout aussi en faute que les brutes qui ont fait ça.
Questionné sur la possibilité que Rothstein, outre de l'argent, ait accumulé des manuscrits inédits, Peggy Brennan avait répondu par ce que le journaliste appelait un rire éraillé de fumeuse.
« Encore des rumeurs, mon chou. Si Johnny s'était retiré du monde, c'était pour une raison et une seule. Il était au bout du rouleau et trop fier pour l'admettre. »«
T'étais bien renseigné, pensa Pete. Il a probablement divorcé parce qu'il n'en pouvait plus de ton rire éraillé de fumeuse. » Il y avait beaucoup de spéculations dans les articles de journaux et de magazines que Pete avait lus, mais lui-même penchait pour ce que M. Ricoeur appelait le principe du rasoir d'Occam, selon lequel la réponse la plus simple et la plus évidente est généralement la bonne. Trois hommes étaient entrés par effraction, et l'un d'eux avait tué ses complices pour pouvoir garder le butin pour lui. Pete n'avait aucune idée de ce qui avait amené ce type-là dans sa ville après ça, ni de la raison pour laquelle il avait enterré la malle, mais il était certain d'une chose. Le braqueur survivant ne reviendrait jamais la chercher. Pete n'était pas le meilleur en maths. C'était d'ailleurs pour ça qu'il avait besoin de ce cours d'été pour progresser. Mais pas besoin d'être Einstein pour faire de simples calculs et estimer certaines probabilités. Si le braqueur survivant avait 35 ans en 1978, ce qui semblait être une estimation correcte aux yeux de Pete, il en avait 67 en 2010, quand Pete avait trouvé la malle, et dans les 70 aujourd'hui. 70 ans, c'est vieux. S'il se pointait pour récupérer son fric, ça serait sûrement en déambulateur. Pete tourna dans Sycamore Street en souriant. Selon lui, il y avait trois explications, toutes également valables, au fait que le braqueur survivant ne soit jamais revenu pour sa malle. 1. Il était en prison quelque part pour un autre crime. 2. Il était mort. La 3 était une combinaison de 1 et 2. Il était mort en prison. Dans tous les cas, Pete ne pensait pas qu'il avait à se soucier de ce type. Les carnets, en revanche, c'était une autre histoire. Eux lui causaient un maximum de soucis. Être assis dessus, c'était comme être assis sur une collection de magnifiques tableaux volés, impossibles à revendre. Ou sur une caisse remplie de dynamite.